une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Saint-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Larzac et de Radio Saint-Afrique pour ce nouveau rendez-vous que nous consacrons au thème de l'équilibre énergétique sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses. Après une première émission de présentation générale de la démarche entreprise par le parc pour parvenir à l'équilibre énergétique et une seconde émission consacrée à la rénovation des bâtiments, nous allons aujourd'hui nous intéresser au mix énergétique et à la production d'énergie renouvelable. J'en profite pour vous rappeler qu'après leur diffusion sur les antennes de nos deux radios, ces émissions sont accessibles pour la réécoute et le téléchargement sur les sites internet de Radio Larzac et de Radio Saint-Afrique et que par conséquent, vous pouvez retrouver en ligne toutes les émissions précédant celle-ci. Pour parler du mix énergétique et des outils de production d'énergie renouvelable, nous recevons aujourd'hui dans nos studios Christian Font. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes président délégué du Parc naturel régional des Grands Causses. Vous représentez les communautés de communes au bureau syndical du parc.
Oui, c'est ça.
Alexandre Chevillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission énergie-climat au Parc naturel régional des Grands Causses. C'est à ce titre que vous interviendrez dans l'émission. Francis Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agriculteur à la Cavalerie et vous représentez l'association Causses Énergie Propre. Vous nous présenterez votre association et surtout le projet que porte cette association, notamment en matière de méthanisation.
Bien sûr.
Et enfin, Guy de Greff, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes co-gérant de la compagnie des artisans associés, C2A. Votre entreprise est située à La Peyre, près de Saint-Afrique. Vous installez des centrales photovoltaïques. Vous assurez également la surveillance et la maintenance de ces installations. Et dans une démarche de partenariat, vous élaborez des pré-études pour des projets de méthanisation.
C'est bien ça, oui.
Alors, bienvenue à tous les quatre et nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos studios. Alors, Monsieur Font, nous allons commencer avec vous. Le territoire du parc, comme la plupart des territoires ruraux, possède de nombreuses ressources énergétiques. Donc, il y a le soleil, l'eau, la biomasse et le vent. À ce jour, les énergies renouvelables représentent environ 40% de l'énergie consommée sur le territoire. Quel est le positionnement du parc naturel régional des Grands Causses par rapport à la production d'énergie renouvelable ?
Alors d'abord, je souhaiterais dire que nous nous positionnons par rapport à une problématique planétaire et une problématique nationale. Dernièrement, il y a eu la COP21, tout le monde en a entendu parler, tout le monde a bien compris l'enjeu des 2 degrés, des 3 degrés, des 1 degré et demi. Et donc pour arriver à atteindre ces objectifs, eh bien, il faut que chaque territoire de la France, et notamment les 51 parcs, soit exemplaire. Et sur le nôtre, la mission est d'être indépendant, autonome du point de vue énergétique d'ici 2030. Comme vous venez de le rappeler, au moment où je parle, ben nous ne produisons que 40% de l'énergie que nous consommons. Donc si je puis m'exprimer ainsi, nous allons taper sur tout ce qui bouge du point de vue des énergies renouvelables. Bien sûr, on va en produire. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais de l'éolien bien sûr, l'énergie bois.
Donc l'objectif c'est quoi? C'est environ 70% de part d'énergie renouvelable, c'est ça?
Non, en 2030, sur le territoire du parc, on ne produit que de l'énergie renouvelable. Donc ça veut dire que l'objectif c'est 100% d'énergie renouvelable en 2030.
En production?
En production.
Mais ce que ça représentera dans la consommation
Alors, au moment où je parle, on est à peu près à 2200 gigawattheures de consommation. Nous produisons un petit peu plus de 800, dont on a, enfin, le plan climat-énergie territorial du parc qui a été voté en 2009 prévoit d'économiser de l'énergie, de faire de l'efficience énergétique à hauteur à peu près de 800 gigawatts et de produire 600 gigawattheures supplémentaires et dont on se positionnerait en production et en consommation autour de 1600-1700. Sachant qu'entre-temps, et j'espère bien que le parc gagnera aussi de la population, Et qui dit augmentation de population dit aussi augmentation de la consommation. Donc il est possible que nous soyons peut-être un petit peu au-delà en termes de production de consommation à la date 2030. Je sais très bien que c'est un objectif qui est très ambitieux, qui pour d'aucuns semble irréalisable, mais il faut bien avoir une route, se tracer un chemin, et on va faire les efforts jour après jour pour y parvenir.
Alors pour atteindre cet objectif, vous vous appuyez sur plusieurs filières, plusieurs démarches qui sont concomitantes.
Absolument. Donc il y a évidemment un gisement très important sur le territoire qui est le bois. La forêt représente à peu près 45% de la superficie du parc. Cette forêt augmente chaque année et on ne consomme que 20% de la potentialité. Donc là, il y a une opportunité. Donc nous avons un projet, une Sembois en création, une société d'économie mixte avec 5 ou 6 projets de chaleur bois. C'est pas négligeable puisque on imagine que ça va produire 15, 20, 25 gigawattheures équivalent électrique d'ici 2030. Mais si on peut faire davantage, eh bien on le fera. Avec des projets parfois dans des communes conséquentes comme Sainte-Afrique, mais aussi plus modestes comme Sylvanès, comme Murasson, comme Belmont-sur-Ance et d'autres encore.
Donc ce réseau de chaleur bois à travers la SEM, ça fera l'objet d'une prochaine émission. En attendant, il y a d'autres filières. Par exemple, on a parlé en préparant cette émission de l'hydroélectricité qui représente une part importante actuellement des énergies renouvelables produites et consommées sur notre territoire.
Alors l'hydroélectricité, au moment où je parle, ça représente à peu près 450 gigawattheures d'électricité. Donc c'est quand même pour l'instant l'énergie qui produit le plus sur le territoire. Mais on sait très bien que tous les sites, exploitables le sont. C'est essentiellement des barrages sur le Tarn. Il y a à côté de ça une trentaine de micro-centrales hydroélectriques sur les différents cours d'eau du territoire du parc. D'autres seront équipables, mais on ne pense pas que c'est sur ce secteur-là que nous allons gagner beaucoup de production. En revanche, EDF nous dit que l'efficacité des barrages risque d'augmenter et qu'il est possible qu'il y ait un petit gisement dans le domaine de l'efficacité dans les années à venir autour des barrages EDF notamment.
Alors, à travers le plan climat-énergie territorial dans un premier temps, puis avec la suite, notamment la convention territoire-énergie positive pour la croissance verte qui a été signée, je le rappelle, au début de l'été, vous êtes également engagé dans une démarche d'expertise, de préconisation pour les énergies renouvelables.
Oui, tout à fait. Alors nous avons eu, vous êtes gentil de le rappeler, nous avons eu le bonheur de recevoir Madame la Ministre donc, de l'écologie Ségolène Royal sur le territoire du Larzac cet été, qui est venue signer avec le président Fauconnier le fait que le parc était territoire énergie positive. Ça fait quand même pas mal de subsides qui vont retomber sur le territoire du parc. Cet argent va servir notamment à faire des expertises pour voir la manière dont les bâtiments privés ou publics sont isolés. Et donc ça suppose un gisement d'économie d'énergie important. Et puis a été évoqué sur le Larzac aussi la problématique de la méthanisation, c'est-à-dire comment faire que... Là, il y a un gisement assez considérable, puisque tous les déchets de l'agriculture, ça peut être le fumier, ça peut être le petit lait, ça peut être les déchets alimentaires, ça peut être aussi ici ou là des végétaux, puissent être transformés, le moment venu, en biogaz et donc ensuite en électricité. Je pense que là, il y a plusieurs dizaines de millions de gigawattheures de disponibles si on arrive à lever les verrous à la fois techniques, juridiques et technique, et c'est pas simple. Mon compagnon ici présent, responsable du projet sur la cavalerie, en dira un mot tout à l'heure.
Alors effectivement, le projet de méthanisation, on en parlera avec Francis Morin tout à l'heure. Quand on parle de mix énergétique, alors peut-être Alexandre Chevillon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suppose une imbrication de toutes ces énergies, de la façon de les concevoir, mais aussi de les distribuer, de les consommer sur le territoire?
Écoutez, d'abord c'est simple, sur le territoire on n'a pas d'énergie carbonée. Donc on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz naturel, on n'a pas de charbon. Donc pour nous le mix énergétique c'est exclusivement des énergies renouvelables. Donc on en avait au côté déjà trois, il en manque une, c'est le soleil. Et donc là, il y a le photovoltaïque, il y a le chauffage de l'eau pour les particuliers. Il y a beaucoup de choses, le moment venu, à faire dans ce domaine. Sachant qu'en accord avec la Chambre d'agriculture, la politique du parc à l'heure actuelle, la philosophie du parc, est de ne pas faire de photovoltaïque sur les terres agricoles. Nous les autorisons sur les bâtiments existants, sur les nouvelles constructions, sur les friches industrielles et sur les délaissés d'autoroutes. Alors peut-être que si les membres du conseil syndical du parc le souhaitent, et je crois qu'ils ont évoqué ce souhait lors des différentes réunions autour du schéma de cohérence territoriale, peut-être que cette philosophie peut évoluer vers des terres qui étaient jadis à vocation agricole, mais qui sont en train parfois d'être délaissées. Mais on ne fera rien sans un accord très précis avec les agriculteurs et avec la Chambre d'agriculture, parce qu'on ne souhaite pas évidemment sur ce beau territoire qu'une flambée des prix des terres agricoles et que ça empêche les jeunes agriculteurs de s'installer. Donc on ne veut pas régler un problème et puis en créer un autre. Par ce biais-là.
Donc le choix de ne pas faire d'installation sur des terres agricoles, c'est parce que le sujet du foncier est trop sensible.
Est très préoccupant. Je citerai juste un chiffre sur ce domaine qui était vraiment une préoccupation pour nous, responsables du parc. Nous avons 1709 exploitations agricoles sur le territoire du parc. Et au moment où je parle, 500 exploitations agricoles n'ont pas de repreneur désigné à l'horizon de 10 ans. C'est-à-dire que si on ne règle pas le foncier pour ces jeunes agriculteurs, les problèmes de reprise des fermes agricoles, eh bien on risque d'avoir une déperdition du substrat agricole du territoire assez considérable. Donc on ne va pas, nous, le parc, rajouter un problème aux paysans en surestimant les terres agricoles, en faisant en sorte qu'ils ne puissent pas s'installer. Et du coup, à l'arrivée, on aurait peut-être un peu plus d'énergie, mais on aurait évidemment un potentiel agricole qui serait amoindri, diminué, appauvri. Et ça, on ne le souhaite pas.
Alors cette démarche vers l'équilibre énergétique avec le développement des énergies, de la production d'énergie renouvelable, elle s'accompagne aussi d'une démarche de sobriété énergétique.
Ah, ça c'est très important. Il est évident, et tous les auditeurs l'auront compris, que l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et donc je crois qu'il faut qu'on éduque, qu'on apprenne à tous les habitants du territoire à économiser l'énergie. Alors le parc est un rôle éducateur dans ce domaine. Nous avons fait beaucoup d'animations autour de la conduite, de l'éco-conduite pour économiser l'énergie, notamment auprès des jeunes agriculteurs. Et je crois que les chiffres sont assez valorisants de ce point de vue-là. On arrive à 10, 15, 20% d'économie d'énergie. Il y a aussi évidemment l'isolation des bâtiments. Et puis après, il y a tous les gestes du quotidien. Je ne vais pas tous les lister, mais tout le monde le comprendra, y compris des gestes qui sont parfois auxquels on ne pense pas. J'évoquais tout à l'heure en aparté le fait d'envoyer des mails considérables, très très lourds, à des dizaines par jour, à des centaines de personnes. Ça, évidemment, aussi, ça consomme de l'énergie. Et je le mentionne parce que c'est vrai aussi pour les SMS, les portables, etc. On y pense peu, mais il n'y a pas que le carburant qu'on met dans la voiture.
Alors cette démarche de sobriété vis-à-vis des familles et des particuliers, c'est ce qu'on retrouve notamment dans le défi famille à énergie positive, par exemple.
Absolument. Sachant que, ne pas oublier que la consommation énergétique des ménages sur les territoires, c'est quelque chose qui grève les budgets. En moyenne, un ménage consomme pour 3000 euros d'énergie. Donc s'il arrive à économiser 10 ou 15% de cette consommation-là, c'est tout bénéfice évidemment pour les autres secteurs de la consommation. Et c'est vrai que dans le défi énergétique, famille énergie positive, qui je crois existe depuis 4 ans maintenant sur le territoire du parc, eh bien les familles se groupent par équipe de 10, font toutes des gestes éco-citoyens, éco-responsables, et les chiffres que l'on a montrent que la plupart du temps, on arrive à peu près entre 15 et 25% d'économie d'énergie, ce qui est assez conséquent, puisque tout à l'heure, j'évoquais le chiffre de 3000 euros. Si on économise 20% de 3000 euros, eh bien, c'est quand même un élément pas négligeable en ces temps de disette salariale.
Donc modification des comportements, efficacité énergétique, le parc encourage aussi le déploiement des énergies renouvelables, toutes filières confondues, on l'a dit. Quel est l'accompagnement spécifique sur chacune de ces filières ?
Alors l'accompagnement spécifique, il est essentiellement technique avec un certain nombre de préconisations. c'est-à-dire quelles sont la bonne méthodologie, les bonnes ressources, les bons gestes, etc. Et puis peut-être que sur ce sujet, je vais laisser la parole à mon collègue chargé d'émission énergie qui aura peut-être la parole plus aisée, plus facile en tant que technicien du parc.
Alors Alexandre Chevillon, on vous écoute sur ce sujet.
Alors l'accompagnement du parc, ça va dépendre entre guillemets des énergies. Si on prend le bois, on est vraiment dans une logique de sensibilisation à l'usage du bois et on va même aujourd'hui jusqu'à créer une société commerciale pour vendre de la chaleur issue du bois. Donc là, on devient même maître d'ouvrage de projet. Sur la méthanisation, depuis toujours, on encourage ces projets. La première étude de projet qui a été faite dans le sud d'Aveyron, elle a été conduite par le parc pour des agriculteurs de Millau et du côté de Camarès. Aujourd'hui, voilà, les projets du territoire sur la méthanisation, on accompagne les porteurs de projets. La semaine dernière, Francis en parlera tout à l'heure, je pense, mais on a organisé pour le groupe de la cavalerie un voyage d'études du côté des Vosges. Donc voilà, on les accompagne techniquement, administrativement, rechercher les financements pour les projets. Et puis après, sur les énergies électriques, je pense à l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque, on est plus aujourd'hui dans une politique de régulation, parce que le développement se fait de manière naturelle par notamment des opérateurs privés. Et on voit dans certains cas, et là je pense à l'éolien, peut-être des dérives, en tous les cas une trop forte prospection, qui amène aussi à des contestations d'une partie de la population. Donc là, on est plus dans une logique d'encadrement, de régulation, de planification, voire territoriale de ces énergies.
Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que le parc pourrait encourager des projets coopératifs en matière d'éolien, par exemple ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui effectivement commence à se propager, ce qu'on appelle l'éolien participatif citoyen, qui est un modèle, par exemple, très développé côté Danemark, Hollande. C'est des projets qui sont encore nouveaux ici, mais qu'on a tendance à encourager et qu'on souhaite même demain pouvoir imposer dans le cadre du SCOT. Aujourd'hui, la loi de transition énergétique permet aux collectivités de rentrer directement au capital des sociétés d'exploitation des projets d'énergie renouvelable. Alors qu'avant, il fallait qu'elle passe par une société intermédiaire type société d'économie mixte, société publique locale ou s'associer par des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, elle peut librement prendre des parts dans n'importe quelle société de production d'énergie renouvelable. Et à travers le SCOT, on souhaiterait imposer ça pour tous les projets éoliens, qu'il y ait à minima 33% des parts des projets qui appartiennent aux collectivités territoriales.
Donc le SCOT, je rappelle, c'est le schéma de cohérence territoriale. Voilà. Donc on va parler concrètement avec les porteurs de projets d'énergie, des outils de production d'énergie renouvelable. Notamment, on parlera après cette pause musicale avec Francis Morin de projets de méthanisation.
Lâchons la brume après la nuit. Sur nos duvets de plumes, il n'y a qu'ici où l'on se terre, où nos peaux se consument. Les corps cassés, toujours vivants, sur le bord d'un étang. L'herbe mouillée panse nos blessures et nous claquons des dents. Rien qui ne nous appartiennent, pas même les fourmiliens, pas même les éoliennes. Rien qui ne nous appartienne, pas même les fourmiliens, pas même les éoliennes. Dans un cours d'eau de voisinage se baignent nos chevaux, en attendant sans camouflage un orage rodéo. Les yeux gonflés après la nuit, sous un ciel qui tambourine, le timbre gasoline. Rien qui ne nous appartienne, pas même les fourmilions, pas même les éoliennes. Laisserons tout après la nuit, nous oublierons tant pis. Nos vieux chevaux, l'herbe mouillée, les marécages, les vents d'été. Nous laisserons tout après la nuit, nous oublierons tant pis. Nos vieux chevaux, l'herbe mouillée, les marécages, les vents d'été. Rien qui ne nous appartienne, pas même les fourmilions, pas même les éoliennes. Non, rien qui ne nous appartienne, pas même les fourmilions, pas même les éoliennes.
Vous êtes toujours dans l'émission Une autre vie s'invente ici sur Radio Sainte-Afrique et Radio Larzac, et aujourd'hui nous parlons mix énergétique et outils de production d'énergie renouvelable. Alors Francis Morin, vous êtes éleveur au Vinlay à la Cavalerie, et avec l'association COS Énergie Propre, vous portez un projet collectif de production de biogaz par méthanisation. Comment est né ce projet ?
Alors ce projet est né au sein de notre CUMA local qui est très dynamique. Et en discutant entre agriculteurs sur la problématique de la mise aux normes de nos exploitations par rapport aux effluents d'élevage, nous avons pensé que la méthanisation pouvait être une solution pour faire une mise aux normes collective qui aurait en plus bien des avantages à cette issue, à savoir garantir les valeurs de nos fumiers, protéger les sources souterraines de l'Esperelle qui alimente la ville de Millau en eau potable, et la source du Durzon qui alimente plusieurs villages de notre plateau. L'envie aussi de s'investir dans la production d'énergie renouvelable. Et ensuite, un projet collectif, et bien ça a toujours des mérites d'être fédérateur, d'apporter une dynamique sur le territoire entre les agriculteurs aussi.
Et concrètement, l'idée, elle est venue comment ? Donc vous avez dit au sein de la CUMA, mais c'est dans une conversation, comment ça s'est fait ?
Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, on se rendait à une réunion entre agriculteurs pour discuter d'InterCUMA, justement. Et en passant devant le relais de la conduite de transport de gaz naturel, nous avons dit, tiens, mais voilà, il y a des projets de méthanisation qui naissent un peu partout, et pourquoi pas chez nous ? Pourquoi pas chez nous ? Parce que sur la commune de la Cavalerie, nous avons une conduite de transport de gaz naturel qui est gérée par TIGF, une conduite de distribution de gaz qui est gérée par GRDF, et puis bien sûr des conduites électriques conséquentes. Donc on a dit, nous avons tous les ingrédients pour essayer d'étayer un projet de méthanisation.
Et vous avez bénéficié d'une structure qui était déjà existante, que vous avez repris en main, c'est
voilà.
Ça ?
Il avait été créé sur notre territoire une association qui s'appelle COS Énergie Propre, qui avait été conçue à l'époque pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, notamment un projet éolien du côté de Cornus, un projet de 3 éoliennes, un projet participatif du territoire. Et donc nous avons repris à notre compte cette association, nous avons constitué un nouveau bureau. Ce bureau est constitué essentiellement des porteurs de ce projet de méthanisation. Et donc cette association sert actuellement de support pour lancer ce projet. Nous sommes aujourd'hui en train de réaliser une étude de faisabilité qui va arriver à son terme dans les mois à venir. Nous allons travailler sur la dernière phase de l'étude qui va être d'étudier tout le montage juridique et financier de ce projet. L'étude de faisabilité, suite à un appel d'offres, a été confiée à un bureau d'études. Mais nous avons aussi voulu associer à notre démarche plusieurs partenaires, à savoir la Chambre d'agriculture, le parc, la Fédération des Cubains, pour toute la partie logistique, et le CER, qui va se mettre au travail, là, justement, pour
le
la
CER,
partie...
vous pouvez...
C'est le Centre d'économie rurale.
D'accord.
Qui va, lui, travailler sur la partie économique, financière et choix de la structure juridique qui va porter ce projet. Donc, nous avons voulu associer tous ces gens-là autour de la table pour nous aider. Nous avons aussi la communauté de communes qui nous aide, qui participe à toutes nos réflexions. Voilà, donc l'étude de faisabilité va très certainement se terminer à la fin du premier trimestre 2016.
Mmh.
Voilà. Et j'espère que les résultats seront encourageants et qu'ils vont nous entraîner sur une étude de développement.
Alors vous faites état d'un accompagnement relativement conséquent pour mener à bien ce projet.
Oui.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans cette première phase d'étude ?
Alors la difficulté que nous avons rencontrée, disons que l'idée première... à monter une unité de méthanisation à la cavalerie, était de pouvoir l'orienter sur l'injection du gaz. Pourquoi produire du biogaz pour après en fabriquer de l'électricité alors que nous avons des conduites de gaz qui passent à proximité? Et là, nous nous sommes heurtés à des problèmes parce que les coûts pour la purification du gaz sont tellement élevés qu'on est obligé de monter des très gros projets pour pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. Donc nous avons passé en gros l'année 2015 à chercher les solutions pour orienter notre projet sur l'injection, que ce soit vers le transport ou vers la distribution. Nous avons une conduite de distribution sur la commune de la Cavalerie qui est en consommation très basse. L'arrivée du régiment de Légion sur la Cavalerie va très certainement doubler la consommation de cette conduite, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse injecter. Alors d'un côté, sur la conduite de transport, on est trop petit. Et sur la conduite de distribution, on a trop de production pour pouvoir la consommer.
Donc c'était le problème de l'adaptation de la somme de production.
Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de réorienter notre projet sur la cogénération, c'est-à-dire fabriquer de l'électricité avec le biogaz.
Avec le biogaz. Voilà. Donc un biogaz qui va faire tourner un moteur thermique.
Alors, le biogaz issu de la méthanisation va alimenter un moteur thermique. Ce moteur thermique va entraîner une génératrice et cette génératrice va produire de l'électricité que nous allons contractualiser avec RDF.
Alors la méthanisation, donc cogénération, mais il y a également aussi un autre aspect qui est important en matière de production de fertilisants.
Voilà. Disons que les fumiers qui vont être intégrés dans les digesteurs de l'unité de méthanisation vont ressortir sous forme de digestat avec un taux de matière sèche inférieur à celui qu'ils avaient précédemment. Mais par contre, les valeurs à la base du fumier, notamment NPK, seront concentrées. Et le fait de méthaniser nos fumiers, qui consiste en quelque sorte à faire un compostage de manière anaérobie, va nous garantir les valeurs azotées de ce fumier. Et elles seront, dans le cycle du compostage, elles vont être minéralisées. Et donc l'azote présent dans le digestat pourra être assimilé directement par la plante. Et ce qui va entraîner, bien entendu, des économies d'achat d'engrais chimiques sur l'ensemble des exploitations qui adhèrent à ce projet.
Voilà, alors à la fois économie en matière d'achat et également peut-être un meilleur contrôle des intrants en termes qualitatifs.
Tout à fait. Alors tout à l'heure, je disais qu'une des premières motivations qui nous ont amenés sur ce projet de méthanisation était la mise aux normes des exploitations par rapport aux effluents. Donc...
Oui, donc notamment en ce qui concerne le traitement des eaux blanches, qui proviennent des salles de traite par exemple.
Le traitement des eaux blanches, en partenariat avec le parc, a été réalisé sur l'ensemble des exploitations.
D'accord.
Ça c'est une mise aux normes un peu individuelle concernant les eaux blanches. Les jus d'ensilage également ont été réalisés, les mises aux normes. Et reste des effluents, c'est-à-dire tous les fumiers, quoi. Mmh. Alors, il faut savoir qu'une exploitation agricole, aujourd'hui, normalement, devrait se mettre aux normes individuellement avec des fumières bétonnières pour récupérer les jus. Et cet argent que l'on ne dépensera pas à faire une mise aux normes individuelles sur des mètres cubes de béton pourrait être investi justement sur ce projet de méthanisation. Et là, ça change d'investissement puisque là, on investit dans les énergies renouvelables.
Alors là, vous insistez sur le côté coopératif du voilà. projet en quelque sorte. Ça concerne combien de participants
Alors actuellement, nous avons 23 exploitations qui sont adhérentes à ce projet de méthanisation. Il faut savoir également que ces exploitations sont toutes sous forme sociétaire, GAEC ou ARL, et qu'elles représentent plus de 50 agriculteurs.
Et quelle structure juridique vous avez choisie pour la future société
Alors,
de production ?
La structure juridique que nous allons mettre en place pour porter ce projet de méthanisation va être décidée dans les semaines qui viennent. Il est fort probable que nous nous orientons sur une SAS.
Donc société par action simplifiée,
voilà.
Ce qui a une relative souplesse en fait,
voilà.
Notamment en termes de mise de fonds au départ.
Voilà, qui permettra d'engager les exploitations agricoles, d'engager les agriculteurs. Et puis nous souhaitons aussi que ce projet soit un projet participatif du territoire, de façon à ce que les gens de notre territoire puissent acheter des actions sur notre projet, de manière à ce que les dividendes reviennent sur le territoire, aux gens du territoire, et soient dépensés sur le territoire.
Vous m'avez parlé également, en préparant l'émission, d'une mutualisation avec un autre projet qui est celui des bergers du Larzac.
Voilà, nous avons sur la zone d'activité de la Cavalerie une coopérative fromagère qui a réalisé une unité de méthanisation pour justement se mettre aux normes de ces effluents. Et donc nous sommes en collaboration avec eux, en partenariat, pour envisager de mutualiser la production des deux unités de méthanisation, celle de la coopérative des bergers et la nôtre, de façon à pouvoir être... à pouvoir avoir une production de biogaz supérieure.
Et l'aboutissement, donc après la phase d'étude, la mise en route vraiment concrète du projet, vous la prévoyez pour quand ?
Alors l'idéal serait de terminer l'étude de développement fin 2016 pour envisager une construction sur 2017.
Et cette construction, on ne l'a pas dit, ce sera sur un terrain communal, je crois.
Alors, le terrain envisagé pour positionner cette unité de méthanisation se trouve au bord de la route de Sainte-Afrique. C'est un terrain communal. Face à lui se trouvent tous les réseaux. Parce que nous voulons que ce projet soit aussi un projet évolutif. Aujourd'hui, la pertinence du projet se fait avec de la cogénération. Si demain les conditions d'accès pour faire de l'injection devenaient plus intéressantes, en le positionnant sur ce terrain-là, on a toutes les ouvertures, que ce soit sur le transport de gaz, distribution et la cogénération, production d'électricité. Il faut savoir aussi que jusqu'à présent, en projet de cogénération, nous étions tenus de valoriser la chaleur produite par le moteur. Et nous devions... Globalement, nous devons valoriser 70% de la chaleur pour obtenir le meilleur achat de kilowatts électriques. Aujourd'hui, la réglementation est en train de changer. On détache la valorisation chaleur du tarif de rachat. Le tarif de rachat devient plus intéressant, sans obligation de valoriser la chaleur. Mais ceci dit, ce serait quand même une aberrance écologique de ne pas valoriser la chaleur. Nous avons une zone d'activité à proximité, des fromageries qui ont besoin de la chaleur, et nous allons tout faire pour valoriser le maximum de celle-ci.
Alors concernant la collecte des fumiers, en premier lieu ce sont les participants à votre projet qui vont être concernés. Est-ce que dans l'avenir ça peut s'ouvrir sur d'autres...
Alors, notre projet de méthanisation collectif, on veut qu'il offre la possibilité de baisser la charge de travail pour les agriculteurs. Donc l'unité de méthanisation, la SAS, qui gérera cette unité de méthanisation, va prendre en charge la collecte des fumiers. Nous allons gérer d'une manière plus ou moins collective les curages de bergerie, de façon à pouvoir assurer au niveau de l'unité de méthanisation la collecte des fumiers. Et également le retour du digestat sur les exploitations.
Merci beaucoup Francis Morin. Donc on continue dans cette émission à parler de production d'énergie renouvelable. Et après la pause musicale qui va suivre, on parlera photovoltaïque avec Guy de Greff.
Ici Paris, il est tard. Le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à 1000 mètres carrés, chacun son cube, y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord. Quant au deuxième semestre, le mauvais temps insiste et le clown se défenestre. Encore un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville un tissu cousu de périphérique. Le printemps nous transforme en sauvage. Au premier rayon on plonge sans plage. On attend l'été pour s'entasser chez les autres. Ces gens du sud à l'accent chaud, on ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres nous cotisons. Je voudrais vous y voir à courir les bidonvilles, rêvant de tour d'ivoire où élever ta fille. Soleil du Nord, soleil du Nord. Famille nombreuse avec un seul salaire, c'est voir la mère à 20 ans, 19 étés de galère. L'hiver dure 3 saisons. 40 ans de crédit, la belle maison. Chaque semaine grossit le jackpot. Les temps durcissent, les copains n'ont plus de clopes. Coincés dans d'horribles jeans, entre l'avenir et nos origines. Au fond ça va dans l'hexagone. On cherche les ficelles, tire sur la corde. On se passe de conseils. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Notre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Et oui, nous parlons d'équilibre énergétique, de mix énergétique et d'outils de production d'énergie renouvelable dans cette émission. Alexandre Chevillon, peut-être une précision concernant les filières en matière de méthanisation. Qu'est-ce qui est possible actuellement ?
Alors, en termes de valorisation du biogaz, aujourd'hui, il y a 2 grandes filières. Hein, donc, la cogénération, donc produire de l'électricité et valoriser une partie de la chaleur dégagée par le moteur thermique. Et d'un autre côté, l'injection du gaz directement dans les conduites de distribution ou de transport de gaz naturel. Sachant que c'est une filière en évolution, il y a quelques temps encore, on ne pouvait pas injecter dans les réseaux, c'est possible depuis quelques années. Et peut-être que demain, on pourra directement faire du gaz carburant. Ça pourrait être aussi une nouvelle filière qui commence à se développer. Enfin, il y a quelques expérimentations sur Lille. Par exemple, les bus de l'agglomération de Lille tournent au biogaz. Voilà, on en a un petit peu
ça
en marge.
Ça pour rappeler que le parc travaille aussi sur la mobilité, par exemple.
Voilà. En tous les cas, voilà. Aujourd'hui, il y a ces 2 grandes filières, cogénération, mais qui impliquent souvent de valoriser la chaleur. Et aujourd'hui, c'est quand même un frein dans nos territoires ruraux parce qu'on n'a pas de gros consommateurs de chaleur. Et mettre une unité à côté d'un centre hospitalier, c'est pas toujours facile. Et puis l'injection au réseau, c'est pareil, on a des très faibles débits dans nos réseaux de gaz. Et du coup, une fois qu'on aura 2 projets comme la cavalerie, les tuyaux seront pleins, entre guillemets. Alors même, c'est tout ça pour dire qu'on a un potentiel qui est très important. Là, on a 20 exploitations agricoles concernées par ce projet sur la cavalerie, sachant que M. Font l'a dit tout à l'heure, il y en a 1700 sur le territoire du parc. Donc on pourrait imaginer 100 projets peut-être. Sauf que derrière, il faut trouver quoi faire de cette énergie. Et aujourd'hui, il n'y a pas énormément de possibilités. Il faut bien en avoir conscience.
Très bien. Guy de Greff, je me tourne vers vous à présent. Donc vous êtes co-gérant avec Benjamin Bergne de la compagnie des artisans associés, C2A, et votre entreprise installe des centrales photovoltaïques, en assure la surveillance et la maintenance. C'est également une agence locale pour des projets de méthanisation, donc ça tombe bien, on en parlait à l'instant, mais en quelque sorte sur ces projets vous intervenez très en amont et très en aval, c'est ça si je ne me trompe pas? C'est-à-dire à la fois dans la phase de pré-étude et puis après sur les lots électriques, non?
Sur les lots électriques en exécution de chantier, ce qui nous rapproche ou continue à nous rapprocher du projet. Mmh. Sur l'étude, c'est parce qu'on a quand même, via le photovoltaïque, un très grand réseau d'agriculteurs, et plus que d'agriculteurs qu'on connaît, des organisations aussi. Mmh. Ce qui nous a amené qu'on accompagne des personnes qui pensent à un projet de méthanisation. Et là, on a notre premier projet de méthanisation dont les bétons viennent d'être terminés cette semaine et qui doit être mis en activité pour cet été.
Qui est situé à quel endroit ?
Proche de Ségur.
D'accord. D'accord. Alors, dans quelles conditions donc avez-vous créé cette compagnie C2A ?
Oh, ce sont de drôles de conditions. C'était à une époque que j'avais acheté avec le sac du berger des bâtiments dans lesquels il y avait une filature.
Donc ça, c'est à La Peyre ?
À La Peyre. Et comme je voyage beaucoup en Allemagne et que j'avais lu pas mal de livres, ça peut paraître bizarre sur la théorie de la lumière et lumière-énergie, donc sur la mécanique quantique, en voyageant. Par conviction, en rentrant, j'ai dit « Bon, j'ai une toiture de 200 mètres carrés, j'ai envie de commencer une installation photovoltaïque pour moi. » Je n'ai même pas regardé quel était le prix de vente et à l'époque, ce n'était pas encore attribué. J'ai voulu commencer cette toiture et puis j'ai commencé les procédures tout seul. J'ai cherché mes fabricants en Allemagne, j'ai été faire des foires. Ayant mon projet avec des beaux dessins d'architectes, l'usine en Allemagne, la Solar Fabrique à l'époque, l'ingénieur a dit, ben je vous suis, tu peux prendre contact avec moi, je te fais tous les plans, tous les calepinages, et tu peux faire ta toiture. Et comme ça, j'ai fait mon premier projet. Et ce même ingénieur a transmis mon nom à une entreprise industrielle d'électricité en Allemagne. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone et il m'a demandé, monsieur, est-ce que vous voulez travailler pour nous en France pour le photovoltaïque ? Donc ma conviction est devenue un métier. Je voulais faire quelques toitures par année. En définitive, essentiellement dans le monde agricole, on a installé 15 mégawatts de photovoltaïque actuellement, plus quelques industries. Ce qui était intéressant dans ce défi aussi, c'est que je voulais prouver, dès qu'on m'a posé cette question, que ce n'était pas besoin que des gens viennent de Lyon, de Nantes ou je ne sais pas où pour vendre du photovoltaïque, que c'était un projet local, qu'on voulait former des électriciens localement qui savaient assumer la maintenance après. Ça a fait partie de ce volet. Et après, il y a eu la collaboration avec ce monsieur et cette entreprise allemande qui est rentrée en difficulté il y a 2 ans.
Donc c'était en 2013, ça ?
Fin 2013, et à ce moment-là, j'ai discuté avec les juristes allemands pour reprendre l'entreprise, mais je ne voulais pas reprendre ça tout seul. Donc une partie des salariés et d'artisans extérieurs sont rentrés dans les capitales pour reprendre l'entreprise, et on a aussi eu des bons soutiens de la banque, pour ce qui était assez étonnant, pour nous aider dans la reprise.
Ça veut dire que l'essentiel des collaborateurs sont associés au capital de l'entreprise ?
C'est ça, à petite ou à plus grande échelle. Le nom de compagnie des artisans associés, c'est ça. Et pour moi, c'est aussi pour valoriser le métier du manuel, du bon électricien, du bon couvreur. Je crois que dans beaucoup de métiers, on doit quand même un peu plus valoriser les métiers manuels qu'il y a derrière et pas que la partie de conception.
Alors, au départ, une démarche individuelle, et aujourd'hui, il y a 11 personnes qui travaillent sur, peut-être un peu plus même.
11 en permanent et un nombre d'artisans extérieurs qui continuent à collaborer avec nous en fidélité.
Alors, des pré-études, vous en avez réalisé beaucoup, je crois, sur presque une centaine de bâtiments, mais ça aboutit pas toujours forcément à une construction de centrale, ces pré-études.
Ben disons que pour nous, actuellement, avec le tarif qu'il y a actuellement et le coût d'une installation, elle pourrait être rentable ou tenir la route si on n'avait pas les coûts de raccordement qui s'ajoutent, qui sont très variables et qui sont très lourds. Là, on a déposé une demande de raccordement, pour donner un exemple, puisqu'il me passe par la tête, on m'a donné le dossier hier, 36 kilos. Disons qu'un projet actuel sur une toiture qui est prête va nous coûter à peu près 40 000 euros. Raccordement RDF, pour cette installation, 25 000 euros. Donc on peut rayer le projet. Je crois que politiquement, il y a quelque chose à voir là-dedans. Je sais qu'en Allemagne, puisqu'à une certaine époque, j'avais des contacts réguliers avec l'Allemagne, en Allemagne, un raccordement est porté par d'autres instances. Et je pense qu'il y a aussi une... C'est selon un cahier des charges que sont calculés les prix, mais parfois on a des barrières douanières. Je crois qu'ici, on nous met quand même des barrières technico-financières pour freiner les projets d'une forte façon. Certains travaux, puisqu'on est dans l'électricité, je les ai regardés, certains travaux, moi je peux les poser à moins de la moitié du prix que ce qu'on nous fait payer. En dehors de la nécessité technique qui est quand même très 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 élevée. Les normes techniques pour moi sont très très élevées quand je regarde ce qu'on demande pour le photovoltaïque comparé à d'autres normes techniques de raccordement.
Vous parlez de vos normes internes à l'entreprise ?
Non, des normes du réseau. Mm-hmm. Du réseau.
D'accord.
Donc du réseau RTF.
D'accord. Donc cette entreprise, C2A, elle est installée, donc on l'a dit, en Sud Aveyron. Vous nous avez parlé d'un projet à Ségur, mais en fait vous intervenez sur toute la grande région, hein, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et même jusqu'en Aquitaine. J'ai cru voir ça sur une carte.
Oui, on a fait quelques foires, parfois parce que les gens nous le demandaient dans le secteur énergie renouvelable. Alors on a été à une foire à Agen, et puis il y a un monsieur d'Aquitaine qui est venu vers nous, qui a demandé « je veux que vous faites la toiture ». Là, on reprend en télésurveillance, maintenance des installations dans les Pyrénées-Orientales. C'est des gens qui viennent vers nous via, parce qu'on a fourni un bon travail quelque part, notre carte visite est passée et... Jusqu'à maintenant, on n'a presque pas dû faire de communication pour trouver notre clientèle.
D'accord, c'est venu comme ça par le...
Notre relationnel.
Alors, il y a un aspect qui est important aussi dans l'installation de ces centrales photovoltaïques, c'est l'aspect rénovation des toitures et la possibilité pour les revenus générés par la production électrique de réinjecter ça justement dans la rénovation et dans l'entretien du patrimoine bâti.
C'est ce qui se passe sur le projet du Larzac, mais c'est ce qu'on a pu voir sur...
Donc le projet du Larzac, c'est le projet que vous menez avec la SCTL, c'est ça ?
C'est ça. 19 toitures, sur lesquelles on met des 9 kilos, habitations ou bâtiments agricoles, et qui, de ce fait, peuvent aider à renouveler la toiture, mais aussi faire un apport à terme pour la SCTL, pour avoir des fonds de rénovation de bâtiments, pour améliorer le foncier.
Alexandre Chevillon qui souhaite poser une question ou intervenir.
Est-ce que dans ce cas-là, justement, les coûts de raccordement pour ces 19 bâtiments sont mutualisés à l'échelle de ce projet de la SCTL ?
Non, puisque les toitures sont trop loin l'une de l'autre, mais il y a eu des discussions avec RDF que la SCTL a menées pour essayer d'un peu être meilleur dans les tarifs. Il y a comme des toitures qui ont été éliminées aussi, où le raccordement était trop cher.
Alors, est-ce que vous êtes obligé de passer par ERDF ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres réseaux alternatifs ? Je pense, à Enercop, par exemple.
Pas pour le raccordement. Pas pour le raccordement.
Mais pour la distribution, après. Mais c'est en aval, évidemment.
Pour la distribution, les gens pourraient vendre à Enercop, mais Enercop n'a pas le droit à l'obligation d'achat. C'est-à-dire qu'Enercop ne peut pas acheter l'électricité au même tarif que l'électricité est achetée par EDF obligation d'achat, qui est séparée de ERDF réseau, qui est une autre instance.
Donc ça partirait d'une démarche volontaire, en fait, à ce moment-là.
Ça partirait d'une démarche volontaire. Parfois, il y a une démarche volontaire d'Enercop quand même aussi, quand c'est des projets collectifs qu'Enercop... Je fais partie d'Enercop. Quand il y a des projets collectifs, Enercop peut améliorer son tarif d'achat pour qu'il y ait une conciliation, que ça tienne quand même un peu plus la route pour celui qui investit. Et en même temps, c'est un projet repris par Enercop.
Peut-être, oui, bon. Alexandre.
Peut-être pour préciser, on a d'un côté le distributeur donc, qui fait transiter l'énergie sur les réseaux. Mm-hmm. Pour l'électricité, c'est ERDF. Pour le gaz, c'est GRDF ou TIGF. Mais il n'y a qu'un opérateur unique sur l'électricité qui est ERDF. Et après, à côté de ça, on a des producteurs et fournisseurs, ceux avec qui vous contractualisez pour acheter votre énergie. Depuis quelque temps, depuis l'ouverture du marché à la concurrence, on a d'autres producteurs que EDF, dont Enercop, OEO, mais il y en a encore d'autres.
Mmh, voilà. Bien sûr. Merci, c'est une précision effectivement utile pour les auditeurs. Très bien. Monsieur Font, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose un petit peu en guise de conclusion à cette émission.
Je ne sais pas si ça serait une conclusion. Je voulais d'abord souligner l'excellence des deux projets qui viennent d'être évoqués. Et puis ce qui me frappe, c'est qu'un est porté par, une personne autochtone. Et le second est porté par ce qu'on appelle pudiquement les nouveaux arrivants. Et c'est vrai que ce territoire a comme caractéristique d'avoir une population qui est mêlée et métissée par des gens qui sont là depuis des générations et des générations, et d'autres, comme moi d'ailleurs, et comme M. De Greff, qui viennent d'ailleurs et qui viennent féconder ce pays d'une certaine manière, qui viennent innover, inventer, qui sont imaginatifs, créatifs, et quelque part, eh bien, c'est de ce mélange-là que nous arriverons à progresser d'une certaine manière. Ça, c'est le premier point.
Et tout ça s'entend à l'antenne par le biais par le truchement des accents.
Voilà, il y a plusieurs milliers de nouvelles arrivants sur le territoire depuis 1999. On estime les nouveaux arrivants à peu près entre 12 et 15 000. C'est quelque chose de considérable. C'est quasiment à l'heure actuelle un habitant sur 5 ou sur 6 sur notre territoire. Donc on compte bien évidemment sur eux, sur leur créativité, pour nous aider à développer ce territoire. Ça montre bien que ce territoire n'est pas fermé, mais ouvert. Ça, c'est le premier point. Le second, il faut bien comprendre que nous devons de penser à la fois globalement à l'échelle planétaire, mais nous devons aussi agir localement. C'est-à-dire qu'il faut connecter les objectifs internationaux, nationaux, et voir ce que nous, on peut faire sur le territoire. Et on ne peut pas faire moins que ce que notre territoire peut permettre de faire. Ça serait évidemment socialement, politiquement, éthiquement, peu glorieux et peu satisfaisant. Il faut que les jeunes entendent. Et enfin, le troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que le parc, c'est un territoire de consensus dans lequel il y a des élus qui ont des horizons philosophiques et politiques différents, qui émanent de 87 communes, 10 intercommunalités, du conseil général, du conseil régional, et nous sommes aussi au contact avec beaucoup de personnes qualifiées, et que quelque part, eh bien, il nous faut entendre la totalité des discours qui sont prononcés par les uns et par les autres. Or, tout à l'heure, lorsque je parlais du plan climat-énergie territorial qui a été voté donc en 2009, eh bien, figurez-vous que ce plan a été voté à l'unanimité des 49 membres du conseil syndical du parc. Ça montre bien que quelque part, les choses ont été bien expliquées, que les objectifs ont été bien décrits et que quelque part, eh bien, nous sommes tous ensemble sur la route pour parvenir à créer d'une certaine manière un territoire qui soit vivant, authentique, positif et dans lequel il fera bon vivre.
Voilà, cette émission est terminée. Je vous rappelle qu'elle est accessible en réécoute et en téléchargement sur les sites web de Radio Larzac et de Radio Sainte-Afrique. Merci à nos invités, Christian Font, Francis Morin, Guy De Greff, Alexandre Chevillon. Merci à Nicolas Galtier pour la réalisation technique et la programmation musicale. La prochaine émission de notre série consacrée à l'équilibre énergétique aura pour thème la création de la société d'économie mixte COS Energia, une SEM pour le développement de réseaux de chaleur et de chaufferie bois sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Restez à l'écoute et à très bientôt sur nos ondes.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai trouvé mes Santiago et mon puits un peu trône, contre une paire de l'Oxide et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les traces qui me disaient, sois prudent. La mer, c'est des glaces, les poissons baissent dans. Dès que le vent soufflera, je repartira. C'est l'homme qui prend l'air, c'est la pris et pourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai promis mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans les bras mouillés. Ça m'a coûté des sous, si la présence s'était. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. Qui préfère la campagne, la mienne m'attend au bord, au bout de la chaussée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer, c'est son malheur, et que le vent soufflera, je repartira. Moi la mer elle m'a pris, comme on prend un taxi. J'en ferai le tour du monde pour voir à chaque étape. Si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe, j'irai aux quatre vents, foutre un peu le poisson. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allons. Il est fier d'un dire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Mais un ami bateau qui a son son et nickel, n'habite pas sur les cajots ni sur les poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allons. C'est l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi, ne pleure plus père, ton fils est matelot, ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau, regardez votre enfant, il est parti marin, tu sais, c'est un marrant, mais c'était mon destin, dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront.